Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et après, vous pouvez également écouter l'histoire d'aujourd'hui qui sera suivie par la mise au point. La revue suivante, comme d'habitude, nous allons présenter le magazine culturel qui sera suivi par l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le vice-président a dit que l'Indonésie aiderait les Rohingyas. L'OIT encourage le gouvernement de protéger les travailleurs migrants face aux grands problèmes. L'Indonésie discute d'une coopération de l'enseignement professionnel avec l'Iran. Et enfin, le vice-président encourage la consultation régionale. Voici le journal complet. Le vice-président assure que l'Indonésie aidera à résoudre les problèmes à Rakhine, au Myanmar, qui frappent les musulmans de Rohingya. C'est ce qu'a affirmé le vice-président Yusuf Kalla à Nusa Dua, Bali, mardi, comme cité par Antara. Yusuf Kalla a également salué la diplomatie de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui est venue au Myanmar à l'invitation du chef de facto Aung San Suu Kyi. La présence de Mme Retno Marsudi est une direction du président Joko Widodo que l'Indonésie a contribué à résoudre pacifiquement le conflit à Rakhine pour aider les réfugiés de Rohingya du conflit à Rakhine au Myanmar qui a augmenté depuis le début de novembre 2016. La Commission de l'ONU pour les réfugiés, UNHCR, a rapporté qu'il y a 10 000 des réfugiés de Rohingya qui sont bloqués au Bangladesh le 30 novembre 2016. Dans le même temps, le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme a également signalé que les violations des droits de l'homme sont très graves, sont arrivées dans cette région, indique les arrestations des personnes sans procès, la violence sexuelle et le discours à la haine, soit directement, soit par le biais de médias sociaux. L'Organisation des Nations Unies pour le Travail, OIT, encourage le gouvernement des pays d'Asie et du Pacifique et des pays arabes à faire des mesures complètes pour traiter les questions relatives aux travailleurs migrants. Michel Lecton, chef de la direction des migrations des mains de fraude de l'OIT, lors de la 16e réunion de la région de l'Asie et du Pacifique, tenue à Nusa Dua, Bali, mercredi le 7 décembre 2016, a déclaré que les problèmes actuels des travailleurs migrants étaient faits face par les travailleurs migrants actuellement pouvaient être pressés par le processus de recrutement qui protège les droits de l'homme et les normes internationales. Selon elle, il est également en cours de règles complètes sur le système de recrutement des mains d'œuvre. De plus, Michel Lecton a également encouragé le gouvernement des pays d'Asie et du Pacifique et le pays arabe à intensifier la coopération entre les pays d'origine et le pays d'accueil des travailleurs migrants afin d'empêcher l'exploitation transfrontalière. Le gouvernement devrait également intensifier la coopération entre les pays d'origine et les pays d'accueil, car c'est une clé où l'exploitation des travailleurs migrants se produit souvent et nous devons combler ces lacunes. Michel Lecton encourage également les pays d'Asie et du Pacifique et les pays arabes à jouer leur rôle dans le service de main d'œuvre pour le public. Cela couvre la participation des hommes d'affaires à la mise en place d'un système de contrôle de recrutement qui protège les droits de l'homme et qui respecte la norme internationale. L'Organisation internationale du travail, OIT, révèle que le travail migrant dans le monde d'aujourd'hui face aux défis plus grands. Ça a été dit par Michel Lecton, le chef du service des migrations de la main-d'œuvre de l'Organisation internationale du travail, OIT, dans la 16e réunion de l'OIT pour l'Asie et le Pacifique, mercredi à Nusa Dua, Bali. Selon elle, les travailleurs migrants donnent des avantages à leur propre et au pays d'origine, mais maintenant cela a changé. Il a dit qu'à ce moment, les travailleurs migrants face aux grands défis pour obtenir un emploi décent. Il y a des preuves, entre autres le coût élevé qui doit être payé par les migrants pour leurs emplois. Cela ouvre des possibilités à l'exploitation des travailleurs migrants qui est souvent commencée à l'étape du recrutement. Ceci est la conséquence du processus de recrutement étant réglementé et contrôlé ou non. En outre, nous constatons que les frais de recrutement ne sont pas la seule cause. Le processus de recrutement peut conduire au phénomène de la diminution du confort des conditions de travail pour les travailleurs migrants. La migration est devenue un programme ailleurs dans de nombreux pays et est devenue une priorité pour les pays membres de l'OIT. Selon Michel Lecton, la quantité de mouvements de personnes dans le monde d'aujourd'hui est plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, il y a 244 millions de personnes qui se déplacent d'un pays à l'autre. D'autre part, le nombre de réfugiés a également augmenté de 65 millions de personnes. En outre, le nombre de travailleurs migrants atteint 150 millions de personnes. L'Asie et le Pacifique, selon les données de l'OIT, est la région avec la plus grande contribution en termes de la migration de la population mondiale. Par conséquent, nous avons besoin de mesures efficaces pour réguler la migration de la population et donner la protection au processus de migration. L'Indonésie bien apprécie l'offre de coopération de l'Iran liée au développement des ressources de la main-d'œuvre. Cela a été déclaré par le ministre indonésien de la main-d'œuvre, Hanif Dakhiri, après avoir rencontré le ministre de la Coopération du Travail et des Affaires sociales de la République islamique d'Iran, Ali Rabiei, dans la 16e réunion régionale de l'OIT pour l'Asie et le Pacifique, mercredi, à Nusa Dua, Bali. Selon le ministre Hanif, l'Iran est un pays qui a une longue expérience dans le renforcement des capacités de la main-d'œuvre. Pour discuter de la coopération sur l'amélioration des compétences et de la formation professionnelle, elle sera suivie de notre réunion pour discuter des plans de coopération liés à la question du développement des compétences et de la formation professionnelle. Le gouvernement indonésien fait le développement des ressources de main-d'œuvre à travers l'amélioration de l'enseignement professionnel, entre autres, sous la forme de Training Center ou BLK. Cela vise à améliorer la compétitivité des travailleurs indonésiens dans le marché du travail domestique et à l'étranger. Aujourd'hui, la concurrence sur le marché de l'emploi en général a tendance à sacher les travailleurs avec l'arrière-plan de la compétence qualifiée. Le vice-président indonésien Muhammad Yusuf Kalla encourage la 16e réunion de l'Asie et du Pacifique, APRM de l'Organisation internationale du travail OIT, a discuté de la normalisation du travail décent dans chaque pays. Dans son discours à l'ouverture de la 16e réunion de l'Asie et du Pacifique de l'OIT mardi à Nusa Dua, Bali, Yusuf Kalla a déclaré que les conditions de travail décent dans chaque pays sont différentes dépendant des conditions économiques de chaque pays. En outre, le 16e APRM de l'OIT doit également discuter de la normalisation du travail décent pour les travailleurs migrants. Selon lui, actuellement, les besoins de travailleurs migrants augmentent en ligne avec le progrès de l'époque, de sorte qu'il devrait être accordé une attention particulière dans un effort de protection et de création d'un travail décent pour les travailleurs migrants.
Di samping masalah-masalah yang kita hadapi, tentu juga ada dua hal yang tentunya menjadi bagian yang kita harapkan tentu dapat.
En plus des problèmes auxquels nous sommes confrontés, j'espère que nous pourrons discuter des deux choses. Comment fonctionne un travail décent dans chaque pays? Parce que chaque pays a des conditions économiques différentes. En outre, nous devrions également discuter de travail décent pour les travailleurs des pays en développement vers les pays développés. Bien sûr, cette année, le travail des travailleurs migrants augmentera en raison du progrès économique. En outre, le vice-président Muhammad Yusuf Kalla encourage également les pays membres de l'ASEAN à ne pas concurrencer en abaissant le salaire minimum des travailleurs afin d'attirer les investisseurs étrangers. Il a exhorté la 16e réunion de l'OIT de l'Asie et du Pacifique à organiser des consultations régionales afin de mesurer le salaire minimum régional pour les travailleurs. Secrétaire, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Secrétaire, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, le secteur touristique est plus prometteur. L'Indonésie développe activement le tourisme comme l'une des principales industries parce que le tourisme est devenu un mode de vie de la plupart des gens dans le monde. Le secteur du tourisme peut être considéré comme l'un des plus grands revenus de devises s'il est bien géré et sérieusement et soutenu par toutes les parties concernées. La cible de l'Indonésie en 2019 est d'apporter 20 millions de touristes. Ainsi, il peut obtenir des devises étrangères s'élevant à 20 milliards de dollars américains. Certes, une grande opportunité sur le marché du tourisme est un défi pour l'Indonésie d'être en mesure d'utiliser en optimal le potentiel naturel existant aussi que possible. L'Indonésie, en tant que pays archipelagique, a une beauté naturelle et la diverse culture. De Sabang à Merauke, chaque région possède un potentiel varié allant du tourisme culturel, de la nature, du maritime, de l'agro, de la religion, de l'histoire, de l'éducation, du shopping à la gastronomie. Selon le Forum économique mondial, actuellement le classement de la compétitivité touristique indonésienne s'est également amélioré de 70e au 20e rang sur 141 pays. Le secteur du tourisme est plus prometteur parce qu'il a un impact large et est capable de toucher tous les fondamentaux économiques. Pour les régions de l'Indonésie, le tourisme est une machine motrice pour l'économie qui est assez puissante si la destination touristique de la région est capable d'être bien gérée. L'initiative des gouvernements régionaux de tenir divers événements culturels et festivals est une étape efficace de la promotion du tourisme. Comme par exemple, le festival transfrontalier d'Atambua, dont le territoire est limitrophe du Timor-Oriental. Cet événement est capable d'attirer les touristes du Timor-Oriental pour venir en Indonésie. En outre, il y a aussi le festival de chant marine du Cap de Lesung à Banten, l'exposition de l'Ouest de Sumatra 2016, festival de carnaval de nuit, dont chacun a réussi à attirer les touristes nationaux et internationaux. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère du Tourisme, s'est également efforcé de développer le secteur du tourisme, par exemple en adoptant une politique sans visa pour 169 pays. De plus, le gouvernement a fixé 10 destinations touristiques prioritaires en améliorant de façon optimale l'infrastructure et les ressources. Le gouvernement a encouragé certaines entreprises d'État à coopérer et à participer au développement de destinations touristiques dans les régions de l'Indonésie. Avec un programme de promotion touristique durable et structuré dans la planification du développement, l'objectif du gouvernement d'attirer les touristes étrangers en Indonésie pourrait être réalisé. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 8 décembre 1962, la révolution de Brunei a éclaté, dirigée par Yasin Afandi et les rebelles armés. La rébellion de Brunei a éclaté le 8 décembre 1962 et a été menée par Yasin Afandi et les rebelles désarmés. Ils ont lancé des attaques contre la ville pétrolière de Seria, ciblant les installations pétrolières Shell et ont attaqué les postes de police et les installations gouvernementales autour du protectorat. Cette révolte est considérée comme l'un de l'étape initiale de la confrontation Indonésie-Malaisie. Le 8 décembre 1980, John Lennon, chanteur britannique, est mort. John Winston Lennon ou John Lennon est un chanteur, auteur, compositeur, instrumentaliste. écrivain et activiste politique connu dans le monde entier en tant que membre du groupe de musique The Beatles. Lennon et Paul McCartney ont formé le plus de succès de partenariat d'un auteur-compositeur jusqu'à présent. Après la dissolution de Beatles en 1970, il a également réussi avec sa carrière solo. La chanson Imagine est encore très populaire jusqu'à présent et devient l'un des hymnes de paix dans le monde. Le 8 décembre 1987, lors d'un sommet à Washington DC, le président américain Ronald Reagan et le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev, pour la première fois, ont signé un traité sur la réduction des armes nucléaires. Cet accord historique limite le nombre de missiles de courte et moyenne portée. Les deux pays superpuissances ont 2611 missiles de courte et moyenne portée qui sont principalement stationnés en Europe et en Asie du Sud-Est. Le traité est ratifié par le Sénat américain le 27 mai 1988 et entré en vigueur le 1er juin 1988. Le présent traité est un pas important vers le prochain traité, à savoir la réduction de missiles à longue portée qui a été signé en 1991. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonesia, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service international, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « La communauté économique de l'ASEAN permet la vulgarisation agricole étrangère en Indonésie ». Après la communauté économique de l'ASEAN, ou CEA, a été appliquée à la fin de l'année dernière, il est possible que l'agent de vulgarisation agricole à l'étranger travaille en Indonésie. Si cela est réalisé, il va entraver les possibilités d'emploi pour l'agent de vulgarisation agricole en Indonésie. Il doit améliorer la qualité, telle que la certification des agences de vulgarisation agricole. Cela a été déclaré par l'autre fonctionnaire indonésien. Comme indiqué par l'agent de vulgarisation agricole de la province de Riau, Ismedi Utomo à Radio République Indonésia vendredi, et selon Ismedi, pour augmenter la compétence de la vulgarisation agricole, on a besoin de systèmes de professionnalisme de la vulgarisation agricole qui inclut la normalisation, l'accréditation et la certification des compétences de vulgarisation agricole. La certification de la vulgarisation agricole vise également à accroître la compétence des agences de vulgarisation en accord avec la loi numéro 16 de l'année 2006. En conformité avec les normes de compétences de travail national d'Indonésie, ou SKKNI, pour que la vulgarisation agricole possède la qualification de compétences de travail en conformité avec les exigences de l'emploi. Les certificats sont donnés systématiquement et objectivement à travers un test de compétences en se référant à SKKNI vulgarisation agricole. Selon un conseiller de gouverneur de Riau, Tin Mastina, l'ère de la communauté économique de l'ASEAN a fait le gouvernement doit être mieux préparé pour lutter contre des produits et des services en provenance des pays voisins. L'un des efforts déployés par le gouvernement à travers le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche et continuent d'améliorer la participation des agences de vulgarisation de la pêche en tant qu'agents de changement et la faire en lance du développement économique, non seulement pour augmenter la qualité, mais aussi améliorer la qualité pour devenir l'instructeur de pêche fiable et compétent. Selon Tin Mastina, le potentiel de la pêche indonésienne, y compris la province de Riau, est grand, mais il n'est pas encore exploité au maximum en raison d'un manque de connaissances du public dans l'optimisation des ressources marines et de la pêche. Par conséquent, le rôle de vulgarisation de la pêche est très important pour aider les gens de maximiser le potentiel, en plus de mener une surveillance contre la pêche illégale. Basé sur les données du ministère de la Marine et de la Pêche, un conseiller de la pêche en Indonésie est élevé à 2113 personnes, soit seulement 15,76% du nombre total d'agences de vulgarisation en Indonésie, qui atteint 76877 personnes, est très faible par rapport au nombre de vulgarisations agricoles qui atteint 56335 personnes, soit 73,38%. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le vice-président assure que l'Indonésie aidera à résoudre les problèmes à Rakhine au Myanmar qui frappe les musulmans de Rohingya. C'est ce qu'a affirmé le vice-président Yusuf Kalla à Nusa Dua, Bali, mardi, comme cité par Antara. Yusuf Kalla a également salué la diplomatie de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui est venue au Myanmar à l'invitation du chef de facto Aung San Suu Kyi. La présence de Mme Retno Marsudi est une direction du président Joko Widodo que l'Indonésie a contribué à résoudre pacifiquement le conflit à Rakhine pour aider les réfugiés de Rohingya du conflit à Rakhine au Myanmar, qui a augmenté depuis le début de novembre 2016. La Commission de l'ONU pour les réfugiés, UNHCR, a rapporté qu'il y a 10 000 des réfugiés de Rohingya qui sont bloqués au Bangladesh le 30 novembre 2016. Dans le même temps, le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme a également signalé que les violations des droits de l'homme sont très graves, sont arrivées dans cette région, indique les arrestations des personnes sans procès, la violence sexuelle et le discours à la haine, soit directement, soit par le biais de médias sociaux. L'Organisation des Nations Unies pour le Travail, OIT, encourage le gouvernement des pays d'Asie et du Pacifique et des pays arabes à faire des mesures complètes pour traiter les questions relatives aux travailleurs migrants. Michel Lecton, chef de la direction des migrations des mains de fraude de l'OIT, lors de la 16e réunion de la région de l'Asie et du Pacifique, tenue à Nusa Dua, Bali, mercredi le 7 décembre 2016, a déclaré que les problèmes actuels des travailleurs migrants étaient faits face par les travailleurs migrants actuellement pouvaient être pressés par le processus de recrutement qui protège les droits de l'homme et les normes internationales. Selon elle, il est également en cours de règles complètes sur le système de recrutement des mains d'œuvre. De plus, Michel Lecton a également encouragé le gouvernement des pays d'Asie et du Pacifique et le pays arabe à intensifier la coopération entre les pays d'origine et le pays d'accueil des travailleurs migrants afin d'empêcher l'exploitation transfrontalière. Le gouvernement devrait également intensifier la coopération entre les pays d'origine et les pays d'accueil, car c'est une clé où l'exploitation des travailleurs migrants se produit souvent et nous devons combler ces lacunes. Michel Lecton encourage également les pays d'Asie et du Pacifique et les pays arabes à jouer leur rôle dans le service de main d'œuvre pour le public. Cela couvre la participation des hommes d'affaires à la mise en place d'un système de contrôle de recrutement qui protège les droits de l'homme et qui respecte la norme internationale. L'Organisation internationale du travail, OIT, révèle que les travailleurs migrants dans le monde d'aujourd'hui face aux défis plus grands. Ça a été dit par Michel Lecton, le chef du service des migrations de la main d'œuvre de l'Organisation internationale du travail, OIT, dans la 16e réunion de l'OIT pour l'Asie et le Pacifique, mercredi à Nusa Dua, Bali. Selon elle, les travailleurs migrants donnent des avantages à leur propre et au pays d'origine, mais maintenant cela a changé. Il a dit qu'à ce moment, les travailleurs migrants face aux grands défis pour obtenir un emploi décent. Il y a des preuves, entre autres le coût élevé qui doit être payé par les migrants pour leurs emplois. Cela ouvre des possibilités à l'exploitation des travailleurs migrants qui est souvent commencée à l'étape du recrutement. Ceci est la conséquence du processus de recrutement étant réglementé et contrôlé ou non. En outre, nous constatons que les frais de recrutement ne sont pas la seule cause. Le processus de recrutement peut conduire au phénomène de la diminution du confort des conditions de travail pour les travailleurs migrants. La migration est devenue un programme ailleurs dans de nombreux pays et est devenue une priorité pour les pays membres de l'OIT. Selon Michel Lecton, la quantité de mouvements de personnes dans le monde d'aujourd'hui est plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, il y a 244 millions de personnes qui se déplacent d'un pays à l'autre. D'autre part, le nombre de réfugiés a également augmenté de 65 millions de personnes. En outre, le nombre de travailleurs migrants atteint 150 millions de personnes. L'Asie et le Pacifique, selon les données de l'OIT, est la région avec la plus grande contribution en termes de la migration de la population mondiale. Par conséquent, nous avons besoin de mesures efficaces pour réguler la migration de la population et donner la protection au processus de migration. L'Indonésie bien apprécie l'offre de coopération de l'Iran liée au développement des ressources de la main-d'œuvre. Cela a été déclaré par le ministre indonésien de la main-d'œuvre, Hanif Dakhiri, après avoir rencontré le ministre de la Coopération du Travail et des Affaires sociales de la République islamique d'Iran, Ali Rabiei, dans la 16e réunion régionale de l'OIT pour l'Asie et le Pacifique mercredi à Nusa Dua, Bali. Selon le ministre Hanif, l'Iran est un pays qui a une longue expérience dans le renforcement des capacités de la main-d'œuvre. Pour discuter de la coopération sur l'amélioration des compétences et de la formation professionnelle, elle sera suivie de notre réunion pour discuter des plans de coopération liés à la question du développement des compétences et de la formation professionnelle. Le gouvernement indonésien fait le développement des ressources de main-d'œuvre à travers l'amélioration de l'enseignement professionnel, entre autres, sous la forme de Training Center ou BLK. Cela vise à améliorer la compétitivité des travailleurs indonésiens dans le marché du travail domestique et à l'étranger. Aujourd'hui, la concurrence sur le marché de l'emploi en général a tendance à sacher les travailleurs avec l'arrière-plan de la compétence qualifiée. Le vice-président indonésien Muhammad Yusuf Kalla encourage la 16e réunion de l'Asie et du Pacifique, APRM de l'Organisation internationale du travail OIT, à discuter de la normalisation du travail décent dans chaque pays. Dans son discours à l'ouverture de la 16e réunion de l'Asie et du Pacifique de l'OIT mardi à Nusa Dua, Bali, Yusuf Kalla a déclaré que les conditions de travail décent dans chaque pays sont différentes dépendant des conditions économiques de chaque pays. En outre, le 16e APRM de l'OIT doit également discuter de la normalisation du travail décent pour les travailleurs migrants. Selon lui, actuellement, les besoins de travailleurs migrants augmentent en ligne avec le progrès de l'époque, de sorte qu'il devrait être accordé une attention particulière dans un effort de protection et de création d'un travail décent pour les travailleurs migrants.
Di samping masalah-masalah yang kita hadapi, tentu juga ada dua hal yang tentunya menjadi bagian yang kita harapkan tentu dapat.
En plus des problèmes auxquels nous sommes confrontés, j'espère que nous pourrons discuter des deux choses. Comment fonctionne un travail décent dans chaque pays? Parce que chaque pays a des conditions économiques différentes. En outre, nous devrions également discuter de travail décent pour les travailleurs des pays en développement vers les pays développés. Bien sûr, cette année, le travail des travailleurs migrants augmentera en raison du progrès économique. En outre, le vice-président Muhammad Yusuf Kalla encourage également les pays membres de l'ASEAN à ne pas concurrencer en abaissant le salaire minimum des travailleurs afin d'attirer les investisseurs étrangers. Il a exhorté la 16e réunion de l'OIT de l'Asie et du Pacifique à organiser des consultations régionales afin de mesurer le salaire minimum régional pour les travailleurs. Secrétaire, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec le magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Bali. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, La Voix d'Indonésie. Sur la base de données du site de réservation de voyage TripAdvisor, tout au long de septembre et octobre 2016, le marché Sindhu est devenu une destination à la hausse. Les données sont recueillies dans The Attraction Trend Index qui combine la destination et l'activité qui était populaire en Asie du Sud-Est. Au total, il y a 15 destinations à la hausse en Asie du Sud-Est, dont 4 sont situées en Indonésie, Bali et Lombok précisément. Sur les 15 destinations, le marché Sindhu à Sanur, Bali, occupe la première position avec l'augmentation du trafic de 240%. Dans le magazine culturel ce soir, nous vous invitons à mieux connaître le marché qui est en hausse. Le marché Sindhu se trouve dans la rue Danau Tamblingan, Sanur, Bali. Ce marché est aussi connu au nom du marché Ramah dan Segar, soit le marché sympathique et frais. Nommé ainsi parce que les gens dans ce marché sont toujours très sympathiques quand on fait la négociation. Toutes les choses qui sont vendues ici sont des produits frais. Le marché Sindhu se dresse sur une superficie de 51 acres à accueillir 361 commerçants que la plupart d'entre eux sont la communauté locale. Parmi ceux-ci, 150 ont été logés dans les stalls et 78 dans les boutiques. Le reste est les commerçants saisonniers. Les commerçants dans les stalls sont organisés selon le type de marchandises vendues afin que la communauté soit plus facile de magasiner. Ce marché est organisé en 3 stalls principales. La stall A pour les commerçants qui vendent du matériel de cérémonie et des fruits. La stall B pour les commerçants d'épicerie et des collations de Bali. Cependant, la stall C pour les commerçants qui vendent de la viande et du poisson. Le marché qui a été revitalisé est généralement visité par les résidents locaux, mais au marché Sindhu, il y a beaucoup de touristes étrangers qui font des courses pour leurs besoins de base. La plupart d'entre eux chassent les fruits locaux qui existent seulement en Indonésie, comme le mangoustan, l'écorce, durian et d'autres. Le marché Sindhu n'est pas le genre de marché traditionnel qui est ouvert toute la journée. Autour de midi jusqu'à 1h après-midi, le marché était fermé. L'ambiance se sentira différente quand vous venez au marché Sindhu après-midi. Le marché Sindhu vers 6h serait de nouveau animé. Ce temps est différent de l'atmosphère dans la matinée. Le marché Sindhu se transforme au centre de colporteurs en nuit. La plupart des aliments vendus ici est un aliment typique de Bali et de Java. Tous les aliments vendus sont halal. Les friandises dans le marché sont tout à fait délicieuses. Pas étonnant que de nombreux touristes visitent le marché Sindhu pour profiter d'une variété de culinaires. De plus, le prix est également tout à fait abordable. Malheureusement, ce marché des friandises est ouvert seulement jusqu'à 10 heures du soir. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs dans le monde entier, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur. Le 29 avril, la journée internationale de la danse est un moment pour la communauté internationale de présenter la beauté de la danse de chaque culture. Concernant la commémoration de la journée internationale de la danse, l'Indonésie en couleur pour ce soir a pour thème Solo 24 heures de danse qui présente les danses d'autres pays comme le Japon, le Mexique et a fini à l'Indonésie. La représentation de ces danses voulait inviter le public ainsi que les visiteurs de voyager au monde entier. Sergiteur, le gamelan sonné solennellement de pendopo au grand pavillon ouvert de l'Institut de l'Art d'Indonésie, Solo. En plus des batteurs de gamelan, il y a aussi d'autres groupes dont tous sont les étudiants de l'Institut de l'Art d'Indonésie ici. Ces étudiants pratiquaient la danse pour être présentés à l'événement de la Journée mondiale de la danse en 2016 qui avait commencé le jeudi 28 avril à 14h jusqu'à vendredi 29 avril 2016 à 14h. Cette année, il y a des activités spéciales post-événement sous la forme de diverses présentations de danse à même 30h. L'emplacement à cette année est même que l'année précédente, à savoir sur la rue Jenderal Sudirman, la rue Slamet Riyadi et un certain nombre d'endroits au complexe de campus d'ici Solo, comme Pendopo ou grand pavillon ouvert d'ici Solo, un petit théâtre, un grand théâtre, le théâtre Umar Dini, le théâtre de navire et un certain nombre des endroits est utilisé comme la scène pour les danseurs de démontrer leur habileté à cet événement. Dans la 10e mise en œuvre, Solo 24 heures de danse implique un total de milliers de danseurs de différentes villes à travers les pays. Les participants de l'Indonésie proviennent de Sumatra, Java, Kalimantan et Sulawesi. Pendant ce temps, les participants étrangers proviennent de Chine et de la Malaisie. Le nombre total de ces participants cette fois est plus grand que le nombre de participants à l'événement précédent. Solo 24 heures de danse est indirectement la célébration miniature de la Journée mondiale de la danse qui tombe le 29 avril. D'environ 250 délégués de communautés de danse présenteront diverses danses de leurs régions respectives, mais aussi les danses d'un certain nombre de pays dans le monde. Pour animer cette journée internationale, il y a aussi d'autres activités comme l'exposition des photos de danse et des projections de films autour de la danse. La Journée mondiale de la danse est célébrée internationalement comme la commémoration de l'anniversaire de figures de danse de ballet moderne Jean-Georges Nauvert, 29 avril 1727. Depuis l'an 1982, l'UNESCO décide 29 avril comme journée mondiale de la danse et a consacré comme une forme de convivialité des danseurs dans le monde pour construire un espace d'expression. Serviteurs, c'était l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie. Voici le programme musical qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je vous présente une chanteuse de pop nommée Titi Sandora. Bon, salut, voici Titi Sandora avec sa chanson intitulée Rose. Bonne écoute. We'll be right back. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Titi Sandora intitulée Rose. Titi Sandora a le nom complet Titi Umiati, qui est née à Bentar, Bumiayu, Java Central, le 20 janvier 1954. Elle a commencé sa carrière dans les années 60 dans le monde de chant. Sa premier album, intitulé Sibonchel, arrangé par le groupe Zainal Combo, un groupe musical dirigé par le défunt Zainal Arifin. Ses lyriques drôles dans l'album sont jouées presque tous les jours sur les radios, y compris les radios privées. Outre Sibonchel, il y avait aussi des chansons comme Fujiyama, Sissiti est devenue la mariée, ainsi que l'ami d'école. La popularité de Titi continuait jusqu'à ce qu'elle est adolescente. Sadutak, écoutons donc maintenant la chanson de Titi Sandora intitulée Marantau ou Vagang Bode. Bonne écoute. Chers amis, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec Titi Sandora. Le succès des chansons chantées par Titi Sandora confirme l'unicité de l'identité de la voix d'une Titi Sandora avec la vibration par rapport à d'autres chanteurs à cette époque. Le pic de la carrière de Titi Sandora était atteint quand elle était en duo avec Mohsin Alatas, en collaboration avec lui, qui plus tard est devenu son mari. Titi a publié quelques hits, entre autres Halo Sayang, Dunia Belum Kiamat, Hatiku Hatimu, Pertemuan Adam dan Hawa, et Jangan Marah. À ce moment-là, la popularité d'une chanson est soutenue seulement par les radios. Toutefois, les chansons de Titi Mohsin étaient très populaires dans le public dans les années 1970. Avec Mohsin, Titi a eu beaucoup de succès en tant que partenaire de duo qui est le plus romantique. L'époque d'or de Titi Sandora a déjà passé, mais ses chansons sont toujours populaires et ne meurent jamais. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Titi Sandora intitulées « Dunia Belum Kiamat » et « Hatimu Hatiku ». Bonne écoute et au revoir.
Pikir-pikir sampai tua, diri miskin siapa yang mau?
Sabarlah sabar, tunggu dulu, belum tentu orang tak mau.
Sudah kupikir sama saja, jauh tinggi bulan dan bintang.
Sampai kemana abang mimpi, banyak begini apa lagi, tentu ada sayang padaku. Pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Kembang tidak
setangkai
dunia belum
kiamat,
panjang umur ada jodoh, banyak gadis
pilihan,
banyak janda.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.